France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Dans la société médiévale, c'est une société où il n'y a plus d'enfants. Il était réduit aux quelques années pendant lesquelles il ne pouvait pas se suffire par lui-même et où il était élevé par les femmes. Et à partir de 7 ans, il était lancé dans la société des adultes et il vivait parmi eux dans la promiscuité de tous les instants.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Voici plus d'un demi-siècle, en 1960, Philippe Ariès, historien renommé, spécialiste de l'époque que nous appelons moderne, publia un ouvrage qui fit date et qui s'intitulait « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime ». Il eut le grand mérite de s'intéresser à un sujet qui avait été négligé jusque-là. Mais afin de souligner la nouveauté de sa curiosité et l'originalité de la période qu'il considérait, il affirma un vif contraste avec le Moyen-Âge. À cette époque, contrairement au XVIIIe siècle, le sentiment de l'enfance, comme il disait, n'aurait pas existé. À cause de l'extrême mortalité infantile, les parents n'auraient pas pu s'attacher à des enfants dont Ariès parlait comme de petites choses disparues trop tôt et considérées spontanément comme, je cite, « des déchets éventuels ». La famille, dans les diverses couches de la société, se serait ainsi contenté d'assurer la transmission de la vie, des biens et des noms, sans pénétrer dans la sensibilité des enfants. D'où l'absence d'intérêt pour leur éducation, en attendant ce que pouvait leur apporter l'apprentissage à la frange déjà de l'âge adulte. Or il se trouve que ces certitudes sont complètement remises en cause. Elles le sont, au premier chef, par Didier Lett, professeur émérite à l'Université Paris-Cité, qui vient de publier un livre intitulé « Enfants au Moyen-Âge, du XIIe au XVe siècle ». Un livre qui est d'une parfaite efficacité pour jeter à bas les idées reçues que j'ai dites. Je l'ai donc invité à venir incarner pour nous cette réjouissante révolution historiographique. Que les enfants au Moyen-Âge aient connu de violents malheurs individuels ou collectifs, assurément. Mais la société médiévale a su manifester une profonde affection pour eux, et aussi développer des réflexions fécondes sur l'éducation en fonction de l'âge, du sexe, du milieu social, de la place dans la fratrie. Ne privons donc pas nos ancêtres de cet hommage. Et d'abord, un texte du juriste Philippe de Beaumanoir qui remonte au XIIIe siècle de notre ère.
Notre sire Dieu, qui tout sait, et tout peut, et tout gouverne, donna de sa grâce aux petits enfants 3 manières de connaissance et de nature amour. La première est que l'enfant aime et connaît en premier la femme qui le nourrit de son lait. La seconde est qu'il connaît et montre joie et amour à ceux qui jouent avec lui, le caresse et le porte d'un lieu à l'autre. La troisième est en ceux qui les enfants nourrissent. C'est le grand amour qu'on a et met en eux de nature et de pitié et de nourriture. Et celui-ci leur est bien nécessaire, car s'ils n'étaient pas, ils sont si sales et si ennuyeux en petitesse, et si mauvais et si divers quand ils sont un peu grandais, que à peine voudrait-on en nourrir un seul. et l'amour qui est en ceux qui nourrissent les enfants, spécialement les pères et mères, les aïeux, croît en force tous les jours.
Didier Lette, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet, merci de votre invitation.
Ce texte est donc du juriste Philippe de Beaumanoir du XIIIe siècle, que j'emprunte à la fameuse émission de Jacques Le Goff, Les Lundis de l'Histoire, sur France Culture le 26 décembre 1994. Il y a beaucoup d'émissions importantes de Le Goff sur ce sujet du grand historien qu'il fut, et naturellement nous ferons beaucoup appel à ses archives. Cette lecture est due à Jean-Pierre Leroux, qui était le lecteur attitré des Lundis de l'Histoire, et que nous retrouverons également souvent au long de notre conversation. Mais puisque Ariès est dans le collimateur de votre réflexion historique, Didier Lette, je voudrais que nous éclairions un peu cette controverse. Nous autres historiens, nous aimons bien les controverses majeures. Nous savons que l'histoire est une discipline de la véracité, mais pas toujours de la vérité, ou plutôt des interprétations successives. En voici un cas magnifique.
Oui, je crois que l'historiographie, pour nous, c'est quand même essentiel. Et Philippe Ariès, évidemment, a eu le bon goût, je veux dire, de créer un nouvel objet d'étude, hein, en 1960, avec l'ouvrage que vous avez rappelé tout à l'heure. Et dans cet ouvrage, évidemment, il disait clairement qu'avant le XVIIIe siècle, pas de soucis éducatifs et pas d'amour pour les enfants. Alors, on a bataillé ferme depuis les années 90, on va dire, et vous citiez Jacques Le Goff tout à l'heure, mais effectivement, l'émission à laquelle vous faisiez référence, elle est en fait dans le moment de la grande exposition qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale en 1994, que Pierre Richer et Daniel Alexandre Bidon avaient organisé.
C'était encore à Richelieu.
Oui, tout à fait. Voilà, et c'était une grande expo. C'était la première expo en France, on peut dire, où l'enfant médiéval était vraiment mis au cœur pour le grand public. Ça a été une expo très très importante. Et effectivement, depuis ces années-là, on a essayé, Pierre Richer, Daniel Alexandre Bidon, et puis moi ensuite, de montrer toute l'affection que les parents pouvaient avoir pour leurs enfants et le souci éducatif. Mais d'un certain côté, on a aussi finalement été incapable de parler de maltraitance. Et alors ce livre, effectivement, il essaye de rendre justice un petit peu aux deux côtés de la médaille. D'une certaine manière, effectivement, l'enfance rose, hein, et je pense que les parents médiévaux ont aimé leurs enfants, je le redis, mais aussi ne pas oublier que, évidemment, il y a aussi de la maltraitance.
Oui, il faut voir ces deux aspects. Évidemment, la réaction contre les thèses d'Ariès serait plus dans un premier temps poussé à décrire l'enfance excessivement, exclusivement en rose. Et puis, dans votre livre, vous montrez bien aussi les aspects sombres de cette histoire. Nous évoquerons les uns et les autres.
Tout à fait. Et en fait, je crois qu'on s'est un peu interdit pendant des décennies de parler de maltraitance. Et moi, à l'époque, au début, je disais finalement le XXe siècle, et maintenant le XXIe siècle, n'a pas le monopole de la maltraitance à l'égard des enfants. Et hélas, aussi, au Moyen-Âge, il y avait de la maltraitance. Et je pense qu'il fallait essayer aujourd'hui, en 2025, de faire une synthèse qui permette de voir tous les aspects, finalement, de l'enfance médiévale.
Il reste que le texte de Beaumanoir que j'ai donné insiste plutôt, c'est à dessein naturellement, sur les aspects positifs de l'amour et de ses effets bienvenus sur les esprits, sur les âmes.
Oui, le texte de Beaumanoir, donc tiré tous les écrits de Beaumanoir sont importants, les coutumes de Beauvaisis en particulier sont un texte pour nous très très important. Et donc dans le texte qui a été cité, on voit bien qu'effectivement il y a l'importance du lait, de la nourriture, qui me paraît vraiment tout à fait essentielle. Le jeu, on en reparlera sans doute, et puis ce qu'on appelle à l'époque médiévale, et ce que Beaumanoir appelle l'amour de nourriture, c'est-à-dire effectivement l'enfant aime les gens qui le nourrissent. Et là, le mot nourrir, il est à prendre dans un terme assez vague. C'est pas seulement, enfin générique, on va dire, c'est pas seulement la nourriture, on va dire l'alimentation, mais c'est aussi la nourriture de l'esprit. Et donc c'est l'éducation, de manière plus générale.
À la fois les nourrices et les maîtres, nous allons rencontrer les unes et les autres. Mais peut-être faut-il consacrer quelques temps à l'orée de notre conversation, Didier Lette, avant l'enfant, avant qu'il paraisse, comment la période de la parturition est-elle conçue par les contemporains?
Oui, alors on a sur ce thème-là pas mal de sources, notamment je pense à Aldebrand d'Ancien, qu'on cite beaucoup, Barthélemy Langlais, Bernard de Gordon, enfin voilà, toute une littérature médicale ou moraliste, comme on dit, qui parle de l'enfance. Et il y a beaucoup de traités de pédagogie aussi qui parlent de l'enfance. Et donc beaucoup de choses sur effectivement la parturition, parce que la femme enceinte est véritablement au Moyen-Âge extrêmement protégée. Je pense que on n'a peut-être pas pris conscience de ça, c'est-à-dire que l'enfant dans le ventre maternel, surtout évidemment après l'animation, à partir du moment où il possède une âme, est véritablement un être extrêmement valorisé. Et on le voit sur un plan juridique, par exemple, on peut permettre à une femme enceinte, enfin l'autoriser à ne pas se présenter à une convocation de tribunal. S'il y a une peine capitale à appliquer ou la torture à appliquer sur une femme enceinte, eh bien jamais on ne le fera tant qu'elle n'aura pas accouché. Alors ça peut nous paraître évidemment sordide ce que je dis là, puisque elle sera quand même, ce n'est qu'un sursis, elle sera quand même condamnée à la torture ou condamnée à la peine capitale si elle doit l'être, hein, si la sentence a été rendue. Ça gagne du temps et on a quelques exemples, hein, de femmes qui crient au moment de se faire torturer. Je suis enceinte. Et évidemment, on appelle à ce moment-là des matrones qui vérifient si la femme est enceinte ou pas. Et bon, et, voilà. Et
donc, il existe un vrai souci de protection de la femme enceinte. D'ailleurs, certains des moralistes ont condamné l'excès, vous le montrez bien, de cette protection, dans les 15 joies du mariage, qui est un texte satirique français, oui, qui a été publié anonymement au 15e siècle. Un mari est tourné en dérision parce que pendant 9 mois, il fait toute la volonté de sa femme, qu'il renverse l'ordre, et par conséquent qu'il renverse ainsi l'ordre et la hiérarchie conjugale. Je cite « Alors le pauvre mari devient la proie de soucis et de tourments. Il se met à courir et trotter partout, pour offrir à sa femme ce qui lui plaît. Fait-elle tomber une épingle, il la lui ramasse parce qu'elle pourrait se faire mal en se baissant. »
Ah oui, bien, c'est évidemment toute l'esprit misogyne, on pourrait dire, des médiévaux qui ressort là. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà un mari, hein, qui se laisse mener par le bout du nez par sa femme. Et ça, évidemment, c'est tout à fait condamné à l'époque médiévale. Et bon, on pense évidemment à travers ce texte à toute la littérature des fabliaux, hein, qui abonde dans ce sens, hein, voilà, de mari toujours tourné en ridicule par la ruse féminine. Voilà, donc ça fait partie d'un topos médiéval.
Alors, l'accouchement, entrée dans la vie, ils arrivent, nos enfants, là, à ce moment-là, évidemment, avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance. Et même l'apparition de la césarienne, nous dites-vous.
Oui, alors l'accouchement, d'abord, c'est un moment véritablement où la mort et la vie se côtoient intimement. Hein. J'aime beaucoup cette phrase de tirée d'un récit de miracle de Notre-Dame de Rocamadour, hein, on est vers 1175, où la géographe dit, hein, « Toute femme arrivée au moment de ses couches a la mort à sa porte. » Voilà. Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle dit vraiment beaucoup de choses, hein, sur le risque de mort pour l'enfant, évidemment, mais aussi pour la femme. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui meurent en couche à l'époque.
Ça a duré, en fait, jusqu'au 19e siècle.
Tout à fait, jusqu'à la révolution démographique, évidemment, hein, c'est très très important. C'est quelque chose qui a duré très très longtemps. Et effectivement, ce moment de naissance, on voit bien que les femmes souffrent énormément. Alors cette souffrance, elle est un peu, quand on le trouve dans les récits de miracles, c'est une source que j'ai beaucoup étudiée, et on le retrouve de manière très abondante. On peut penser que c'est pour rappeler une parole scripturaire, pour rappeler la Bible. Évidemment, tu accoucheras dans la douleur, mais quand même, ça renvoie quand même, hein, lorsque les femmes souffrent pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça renvoie aussi, hélas, à une réalité, hein, réalité de la souffrance. Alors la césarienne, bon, le mot lui-même n'existe pas, hein, il apparaît en 1581 seulement.
Ça remonte aux Romains, césarée, c'est du mot coupé.
Tout à fait, voilà. Hein, et mais donc le mot n'apparaît qu'au XVIe siècle, hein, mais la pratique évidemment existe bien avant. Et en fait, on peut pratiquer une césarienne que sur une femme morte, hein, parce que on considère qu'il y a trop de risques d'une part pour la femme et l'enfant si on pratique une césarienne avec les moyens du bord. Hein. Et puis surtout, l'Église interdit la dissection, hein, interdit d'ouvrir les corps. Donc même si on sait très bien que dans les universités de médecine on ouvre les corps des hommes, des femmes, sans doute dès le 12e, 13e siècle. Hein, mais en tout cas, en théorie, c'est interdit.
Il surgit, cet enfant. Et vous faites un sort à ce qu'on appelle le cri primal. J'ai trouvé ça très intéressant.
Oui. Oui, c'est très très important parce que le cri primal, c'est à la fois un cri que tout enfant pousse normalement, hein, lorsqu'il sort d'un milieu aquatique à un milieu aérien, il pousse un cri. Bon, ce cri, on l'entend, mais surtout il a au Moyen Âge une valeur probatoire, c'est-à-dire que lorsque on veut prouver, par exemple, qu'il y a eu un héritier, hein, ça peut avoir des conséquences évidemment extrêmement importantes sur les transmissions d'héritage ou sur la récupération d'une dot, par exemple, pour une femme. Eh bien, il faut que tout l'entourage ait entendu le cri. cri aux quatre coins de la maison, comme disent souvent les textes de loi. Et donc, ce cri primal, il est très important parce qu'il a aussi une valeur probatoire. Et donc, sur un plan juridique, il est tout à fait essentiel. Il prouve qu'il y a eu un enfant qui est né, même s'il est mort immédiatement après.
Théologiquement, c'est important aussi par rapport à la notion de baptême. Avant ou après le cri primal?
Oui, bien sûr. Le cri, pour le baptême, il y a d'abord éventuellement l'ondoiement, parce que les enfants, évidemment, quand ils arrivent, ils peuvent mourir très vite, hein, très vite après l'accouchement. Donc, les parents ont le droit d'ondoyer. Ils lancent trois fois de l'eau bénite, enfin en tout cas sur son crâne. Il faut que l'enfant sorte par la tête et pas par le siège, parce qu'on ne peut pas baptiser un siège. Hein, on peut pas baptiser autre chose que la tête. Et donc il faut que les parents ondoient, donc lancent trois fois de l'eau sur la tête de l'enfant en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il faut évidemment rappeler la Trinité, c'est tout à fait essentiel.
Il y a d'ailleurs une anecdote curieuse que vous évoquez où un père avait oublié de dire le Saint-Esprit. Racontez-nous ça.
C'est un très bel exemple raconté par Jacques de Vitry, qui est un prédicateur, qui rapporte en fait un texte pour condamner en fait les prêtres qui se font un peu graisser la patte par leurs ouailles d'une certaine manière.
Un veau va surgir. Dites-nous ça.
Alors en fait c'est un papa qui la maman accouche d'un enfant, l'enfant meurt immédiatement et donc au moment de la mort le paysan baptise au nom du Père et du Saint-Esprit et il oublie le Fils. Voilà. Et bon, il se rend compte effectivement qu'il a dû faire une bêtise et il prend le petit bébé dans ses bras qui est mort, et il va le porter à l'église. Et puis, au dernier moment, il appelle son fils aîné, donc qui est déjà adolescent, en lui disant va à l'étable, prends un veau et suis-moi. Et donc, on voit le père avec son petit bébé dans les bras, mort, et puis son fils aîné le suivant avec un veau. Le prêtre demande « Comment tu l'as baptisé ?»« Ben, je l'ai baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit. »« Mais qu'est-ce que tu as fait du Fils » crie-t-il. « Eh ben, le Fils, il me suit avec un veau et je vais vous l'offrir. » Et d'un seul coup, le prêtre a trouvé que l'enfant était très bien baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et évidemment, Jacques de Vitry embraye à la fin par une morale en disant « Oui, évidemment, ces prêtres qui acceptent de se faire soudoyer par les ouailles, etc. » Voilà le texte de Jacques de Vitry.
La question se pose de cette mini-chronologie. Autrement dit, à partir de quand le bébé aura-t-il, une fois baptisé, accès possible au paradis? Et c'est l'élaboration progressive dans cette sorte d'étrange hiérarchie des lieux d'après la mort qui se met peu à peu en place, l'apparition du limbe des enfants. Qu'en est-il?
Alors, en fait, on peut dire que jusqu'à la fin du XIIe siècle, la théorie élaborée par saint Augustin depuis le début du Moyen Âge tient le coup, on va dire. Où on était bon et puis on allait au paradis, où on était mauvais et on allait en enfer. Voilà, il y avait deux lieux. C'était une sorte de la bicamérale, on pourrait dire, d'une certaine manière.
C'était trop simple.
C'était trop simple pour une société qui devient de plus en plus chrétienne et qui se complexifie. Et donc, à partir de la fin du XIIe siècle, il y a ce que Jacques Le Goff a appelé la révolution de la géographie de l'au-delà, avec la naissance du purgatoire. Jacques Le Goff, évidemment, a fait ce très beau livre sur la naissance du purgatoire. Mais à la fin du XIIe siècle, avec le purgatoire, apparaissent deux autres lieux, et qui sont des lieux très importants pour moi, parce que ça veut dire effectivement que c'est des perceptions de la mort et des perceptions de l'enfance qui changent. À partir de ce moment-là, donc, l'enfant n'est plus condamné à l'enfer, parce qu'avant, évidemment, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut atteindre le royaume des cieux.
C'était très injuste, puisqu'il n'avait rien fait.
Ben voilà, tout à fait. Mais il est porteur de la faute originelle. À la naissance, évidemment, dès la conception, l'enfant est porteur de la faute originelle, donc il faut le laver du péché immédiatement.
Dans le ventre de la mère qui, de surcroît, a été la tentative.
Exactement. Bien sûr. Voilà. Donc il y a ce péché originel, s'il n'est pas lavé, selon saint Augustin, on va directement en enfer. Or, à partir de la fin du XIIe siècle, naît effectivement le limbus puerorum, le limbe pour enfants. Et ce lieu, c'est un lieu tout à fait original, parce que contrairement au purgatoire, c'est pas un lieu d'attente, c'est un lieu de destination. C'est-à-dire que les enfants morts sans baptême iront, même après le jugement dernier, resteront dans ce lieu. Voilà.
Mais contrairement au purgatoire, qui est un lieu de provisoire.
Le purgatoire, c'est
pour tomber ou remonter.
C'est un lieu génial. C'est un endroit de participatif, on pourrait dire. C'est-à-dire que les vivants prient pour les morts de manière à ce qu'ils soient le mieux placés au moment du jugement dernier pour être tiré vers le haut plutôt que vers le bas.
Nous avions fait toute une émission autrefois avec Guillaume Cuchet sur le purgatoire.
Bien sûr, oui, qui a fait un très beau livre sur le purgatoire.
À laquelle je renvoie nos auditrices et nos auditeurs. Mais restons dans notre Moyen-Âge, Didier Lette.
Oui, et donc ce limbe pour enfants, et c'est une amélioration quand même du sort des âmes des enfants. Et moi, je pense que c'est plutôt une amélioration du sort de l'âme des parents, qui évidemment pensent que leur enfant n'est plus brûlé par les flammes de l'enfer. Donc l'enfant n'est plus brûlé par les flammes de l'enfer, mais il ne verra jamais Dieu. Il ne bénéficiera jamais de la vision béatifique.
Et d'ailleurs, il est intéressant de savoir que le limbe pour enfants a duré très très longtemps. Il vient seulement de disparaître puisque c'est Benoît XVI, en 2007, a supprimé...
Hélas pour les historiens de l'au-delà, oui, c'est un peu dommage, en disant qu'en gros c'était une fable auquel on a cru.
Alors, c'est assez rare que l'Église se désavoue.
Oui, mais parce que c'était pas un dogme. Le purgatoire, jamais personne, même Benoît XVI, n'aurait pu le faire disparaître parce que c'était un dogme. Or, le limbe pour enfants n'est jamais devenu un dogme. Et donc, la porte était ouverte, on peut dire, pour l'anéantir. Mais c'est intéressant, le limbe pour enfants, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, ça devient, à partir du XVIe siècle, un lieu où on y met une sorte d'auberge espagnole, si on veut. C'est-à-dire qu'on y met un peu n'importe qui. On a mis les bons sauvages d'Amérique, qui, les pauvres, étaient comme des enfants, étaient aussi innocents que des enfants, puisqu'ils ne savaient pas que Dieu existait.
Restons Didier Led dans notre Moyen-Âge. Il y a suffisamment à décrire, à évoquer. Je vais vous faire entendre cet extrait du Ménagier de Paris, qui est un traité d'économie domestique du XIVe siècle, qui est lu ici encore par Jean-Pierre Leroux, dans les lundis d'histoire, déjà cité le 26 décembre 1994.
Ces enfants suivent les nourrices et désirent leur compagnie, et être couchés et réchauffés entre leurs mamelles, et deviennent complètement étrangers à leur mère et père, qui auparavant n'en tenaient pas compte, et qui maintenant les voudraient retirer et ravoir. Mais cela ne peut être, car ces enfants chérissent plus la compagnie des étrangères qui pensent à eux et ont soin d'eux. Et puis les parents braillent et crient et disent que ces femmes ont ensorcelé et enchanté leurs enfants et ne peuvent les abandonner. Et les enfants ne sont aises que s'ils sont avec elles. Mais quoi que l'on dise, ce n'est point ensorcellement. C'est pour les amours, les petits soins, les privautés, joies et plaisirs que les nourrices leur font de toutes les manières. Car par mon âme, il n'est d'autre ensorcellement.
Les nourrices, Didier Led, ont une grande importance dans cette histoire des enfants au Moyen-Âge que vous restituez ce matin.
Oui, alors les nourrices, il faut penser que bon, peu de gens, finalement, avant la fin du Moyen-Âge, donnent leur enfant en nourrice. Hein, parce que
Être assez riche.
Ben, il faut être assez riche. Et puis surtout, il y a la croyance que le lait, c'est du sang blanchi. Hein, donc, ce qu'on appelle le procédé de délavation.
Qui remonte de l'utérus jusqu'au sein.
Exactement. Et donc, tout ce qui a nourri l'enfant in utero, ben, il faut continuer à le nourrir. Et donc, l'allaitement maternel, contrairement à ce qu'a pu penser, ce qu'a dit Rousseau en 1763 dans Les Mille, qui évidemment il se révolte contre les pratiques très répandues à l'époque au XVIIIe siècle d'allaitement mercenaire, mais pas tellement au Moyen-Âge. Dans les familles aristocratiques, oui, dans les familles bourgeoises de la fin du Moyen-Âge, oui, on fait appel aux nourrices. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a énormément de conseils dans les traités de pédagogie qui s'adressent au milieu aristocratique, évidemment, pour choisir une bonne nourrice. Parce qu'on dit, la nourrice doit finalement avoir les mêmes qualités que la mère. Hein. Et donc elle doit pas être trop bavarde, elle doit évidemment avoir une sexualité absolument irréprochable.
Pas trop maigre, mais pas trop grosse non plus, mais quand même avec une poitrine suffisamment abondante pour accueillir le nouveau-né, pour nourrir l'enfant.
Voilà. Et puis, bien sûr, il ne faut pas qu'elle ait de sexualité pendant l'allaitement, puisque la circulation des fluides. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner du bon lait si on reçoit du sperme, d'une certaine manière. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... il faut que la femme qui allaite soit en dehors de toute relation charnelle.
Donc on arrive à la concurrence des affections possibles entre les parents et les nourrices dans les classes en tout cas supérieures de la société. Parlons de cette grande question de l'affection entre les parents et les enfants, Didier Led, si vous voulez bien, puisque c'est dans les écrits de Philippe Ariès ce qui était remis radicalement en cause.
Oui, alors bon, c'est assez facile finalement, enfin ça a été assez facile pour nous hein, dès les années 80-90 de chercher dans la documentation, dans tous les textes, des sentiments d'amour pour les parents. Moi j'avais montré donc dès 1997 dans L'Enfant des Miracles hein, qui était issu de ma thèse, à partir des récits de miracles, on pouvait très bien montrer que avec un travail statistique, puisqu'à l'époque on était encore dans l'histoire sérielle, on va dire, à partir d'un travail statistique, j'avais découpé mes récits de miracles en 8 plans séquences, un peu comme au cinéma, et j'avais pu montrer en fait qu'à chaque plan séquence, c'est-à-dire au moment où l'enfant a un accident, où il meurt, au moment où les parents vont au sanctuaire, etc., où ils invoquent pour lui, les parents sont toujours très très présents. Hein. Et autant pour les petits garçons que pour les petites filles, ça je pense que c'était extrêmement important.
On va y venir, mais voilà. La distinction entre le père et la mère est également notable. On a souvent dit que le père était indifférent, or Vous citez des textes qui vont exactement en sens inverse. Par exemple, dans ce Fabliau, avec ce paysan qui revient d'une longue journée de travail et qui retrouve son fils, citation, « Et quand l'enfant voit arriver son père, il s'élance à sa rencontre. Il le rejoint sur le seuil de la porte, il lui fait la fête et saute sur lui. Le prud'homme étreint son enfant et l'emporte joyeusement. » Scène qui pourrait être assez contemporaine.
Oui, je pense que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a assez peu insisté, sur l'amour paternel. On pensait effectivement, on parle souvent de père souverain, de père lointain, ou de père qui ne s'occupe pas de ses enfants avant l'âge de 7 ans. Bon, tout ça, c'est peut-être vrai dans les milieux aristocratiques, mais dans 90% de la population, donc plutôt paysanne, on a beaucoup de témoignages d'enfants très petits qui sont aimés et chéris par leur père.
Et cela se lit, hélas, en particulier lorsque l'enfant vient à mourir. Écoutez donc ce témoignage, il est court, d'un père italien qui a perdu son fils au XVe siècle, lu toujours par Jean-Pierre Leroux, mais cette fois dans une émission du 26 mai 1997, Les Lundis de l'Histoire de Jacques Le Goff.
Je ne peux oublier, et sa mère non plus. Nous avons continuellement son image devant les yeux, nous rappelant son pas, sa manière d'être, ses paroles et ses actes, le jour et la nuit, au déjeuner et au dîner, dedans comme dehors, quand nous dormons et quand nous sommes éveillés dans notre villa et à Florence. Nous pensons qu'il se saisit d'un couteau pour nous frapper au cœur.
On pense, Didier Lett, à beaucoup plus tard, au XVIIe siècle, à ce fameux poème de Malherbe, « Consolation à Monsieur Dupérier ». Ta douleur, Dupérier, sera donc éternelle et les tristes discours que te met en l'esprit l'amitié paternelle l'augmenteront toujours. C'était déjà vrai?
Oui, je crois que ça fait partie depuis très longtemps d'une sorte de style de consolation. C'est-à-dire que les écrivains s'écrivent entre eux pour se consoler de la mort d'un fils. On a de très très beaux témoignages là-dessus.
Ils témoignent de la douleur précisément du père.
Tout à fait, d'époque médiévale. Et ce texte de Giovanni Morelli est absolument superbe parce que on voit cet enfant revenir d'une certaine manière. C'est un revenant et il demande des comptes à ses parents presque. Et ses parents finalement ne sont tranquilles que lorsque l'enfant n'apparaît plus comme un couteau. Enfin, c'est un texte absolument superbe. Qu'on trouve dans les livres de raison, dans les ricordanze italiennes, qui sont absolument superbes.
Les communautés émotionnelles, comme vous dites, existent donc, contrairement à ce que nous disait Philippe Ariest. Nous ne voulons pas faire une victime dans cette émission, naturellement, une victime historiographique, mais c'est à partir de lui que vous avez défini l'originalité et l'efficacité de vos réflexions historiques.
Bien sûr, je pense que Philippe Ariest, on l'a déjà dit, c'est qu'on lui doit beaucoup, parce que c'est lui d'avoir créé cet objet d'étude sur lequel on travaille aussi beaucoup. Nous, les médiévistes, on travaille aussi beaucoup. Mais oui, cette communauté émotionnelle, comme on dit, c'est-à-dire que je pense qu'au Moyen-Âge, il faut voir que la famille fait partie sans doute des premières communautés émotionnelles les plus importantes, le père, la mère, les enfants. Une famille plutôt étroite, contrairement à ce que pensait Philippe Ariès à l'époque, parce que Philippe Ariès était évidemment de son temps, et dans les années 60, on pensait, suite aux travaux de Deplay ou d'autres, on pensait que la famille médiévale était une famille très large, où tout le monde vivait sous le même toit. Or, on se rend compte aujourd'hui que la majorité des familles médiévales sont des familles où la cellule conjugale est au centre, et donc il y a parfois des fratries très larges, on peut être jusqu'à 10 ou 12, mais la mortalité infantile étant tellement forte, même si on produit 10 enfants, on se retrouve avec 3, 4, 5 enfants.
Vous avez une idée statistique, à peu près un tiers des enfants meurent avant 5 ans?
Oui, c'est des estimations très 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 larges, puisqu'on n'a pas du tout, hélas, de statistiques. On a quelques registres paroissiaux en Italie au XVe siècle, mais c'est très rare. Et puis les recensements sont quand même relativement rares. Alors on a très très peu de mais on peut estimer que on est toujours à la limite du renouvellement des générations en fait. Il suffit d'une peste, il suffit d'une famine, il suffit d'une disette, et on passe en dessous du seuil qui permet de renouveler les générations. Donc la mortalité infantile évidemment est très très forte.
Parfois, on critique l'amour maternel dans les écrits de l'époque, qu'on trouve excessif.
D'abord, les médiévaux sont vraiment défendent l'idée qu'il faut un papa et une maman pour élever un enfant. C'est-à-dire qu'ils sont contre l'éducation monoparentale. Et alors, on a ce très beau texte quand même. Enfin, là, on pense toujours à Perceval. Perceval, c'est vraiment l'exemple même d'un enfant qui a été élevé uniquement par sa mère. Perceval est un personnage donc de Chrétien de Troyes surtout, un personnage des romans de la Table Ronde. Et ce Perceval, fait partie donc des grands chevaliers, comme Gauvin, comme les autres. Mais Il a eu du mal à se montrer très bon chevalier. Pourquoi ? Parce qu'il a une enfance qui est très bizarre. Sa mère lui interdit d'accéder à la chevalerie. Pourquoi ? Parce que son père est mort au combat, tous ses frères sont morts au combat, donc la maman, il lui reste plus que ce petit Perceval, qu'elle protège, qu'elle hyper-protège, et lui interdit donc d'accéder à la chevalerie. Mais évidemment, bon sang ne saurait mentir, et donc ce brave Perceval part quand même de chez lui, vers adolescent, et là, il est complètement nié. Enfin, il suffit de penser à Lucchini dans le très beau film de Romer, hein, sur Perceval, et on voit bien qu'il ne connaît rien. Mais finalement, il deviendra quand même un grand chevalier.
Vous parliez de la monoparentalité, ne serait-ce que du fait de la mort d'un des conjoints. Les mariages en moyenne ne durent guère que 6-7 ans, du fait de la mortalité. Et alors, c'est là qu'on voit apparaître la complexité, peut-être actuelle au fond, avec l'image de la marâtre.
D'abord, rappeler, et vous avez raison de le souligner, rappeler que les familles médiévales, enfin les familles d'Ancien Régime plus généralement, sont des familles recomposées majoritairement. Aujourd'hui, on a tendance à dire, les sociologues ou les contemporanistes nous disent, la famille recomposée, c'est nouveau. Non, c'est pas absolument pas nouveau. Alors évidemment, les causes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, c'est la séparation et le divorce qui font que les familles se recomposent. À l'époque, c'était la mort. Mais un enfant avait assez peu de chances de passer son enfance avec ses deux géniteurs comme papa et maman. Et donc, il y avait un parâtre et une marâtre. Alors le parâtre, on le voit pas beaucoup dans les sources médiévales. En revanche, la marâtre, elle est très présente. On en parle très peu dans les sources, on va dire, de la pratique, parce que elles sont tellement nombreuses que ça ne pose pas de problème. En revanche, c'est un personnage dans les sources de la fiction extrêmement péjoratif, très déprécié, parce que bon, voilà, c'est celle qui vient soi-disant voler les héritages pour donner à son propre fils, qui détourne les héritages. Et bon, évidemment, c'est la marâtre de Cendrillon, tout ça est bien connu, mais elle a mauvaise presse, cette marâtre, dans les sources de la fiction.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Précisons maintenant, si vous le voulez bien, Didier Lett, ce qu'a pu être l'éducation des enfants. Parce que là encore, pendant longtemps, on a estimé que l'essentiel, c'était l'apprentissage. En fait, on passait du moment où on faisait des jeux d'enfants au moment où on accompagnait des adultes pour apprendre d'eux leur métier.
On a répertorié en ancien français, par exemple, on a trouvé plus de 50 termes qui désignaient le fait d'apprendre, enseigner, endoctriner, etc. Une société qui a autant de termes pour dire apprendre, c'est quand même une société qui se pose la question de l'apprentissage et de l'éducation. Et puis, on a aussi un certain nombre de traités de pédagogie, écrits pour la plupart pour des garçons et moins pour des filles, certes, écrit évidemment beaucoup plus pour les familles aristocratiques que pour des milieux populaires. Mais en tout cas, ces traités de pédagogie nous renseignent énormément sur le souci éducatif. Alors, quand on les lit comme ça, je dirais, ça peut nous paraître un peu plat, parce que la grande majorité des conseils, c'est un catéchisme, en fait. Tu prieras Dieu, tu respecteras ta mère, etc., etc. Enfin bon, on voit le rappel des principes scripturaires. En revanche, il y a quand même énormément de choses dans ces traités de pédagogie qui montre un souci notamment de progressivité de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quelque chose qui doit se faire de manière très très progressive, ne pas forcer le corps, ne pas forcer non plus l'esprit, il ne faut pas aller trop vite. Ça, c'est vraiment un leitmotiv de la pédagogie médiévale. Et puis aussi, on peut évidemment montrer que le souci éducatif n'est pas le même selon le rang dans la fratrie. Ça, c'est assez fondamental. Je pense qu'on n'a pas le même souci éducatif pour les aînés que pour les cadets. On fait un aîné, c'est-à-dire que dans les familles aristocratiques, en particulier, c'est très net. On apprend, par exemple, le métier des armes à l'aîné, parce qu'on sait qu'il va devenir chevalier.
Le second, ou moine.
Voilà, c'est ça, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai appelé, moi, la loi de déprogrammation, c'est-à-dire que dans tout, finalement, projet pédagogique, la mortalité infantile étant tellement forte, il faut une loi de déprogrammation. Et on a quelques beaux exemples à l'époque médiévale, de cadets qui ont été mis au monastère et qu'on a été obligé de sortir du monastère pour devenir chevalier. Alors parfois ils ne voulaient pas, parce que l'aîné était mort.
Ils ont même pris parfois le prénom de leur frère disparu.
Voilà, bien sûr, oui, parce qu'effectivement le nomastique, enfin le prénom, l'importance de porter le nom du père, le nom d'un aîné, c'est quand même quelque chose de très important.
On peut dire d'ailleurs à ce propos que la catégorie des prénoms qu'on donne est très limitée à l'époque.
Oui, autant au début du Moyen-Âge, on avait un stock anthroponymique assez ouvert, avec un choix très très large, autant à la fin du Moyen-Âge, la christianisation a fait qu'on se reporte sur des prénoms. Je crois qu'on avait calculé qu'au XIIIe siècle, 30% des prénoms, c'était Pierre, Jean et François.
Pour les filles, Alice, Marie. Et beaucoup de Jeanne, pas seulement dans cette émission.
Et beaucoup de Jeanne aussi.
Mais cette distinction fille-garçon est évidemment très, très importante. On se fonde sur l'Ecclésiaste. qui disait « As-tu des fils ? Fais leur éducation et fais-leur plier l'échine dès l'enfance. As-tu des filles ? Veille sur leur corps et ne leur montre pas un visage rieur. » C'est assez austère et ça a été assez violemment contredit.
Terrible. Cette phrase est terrible.
Et c'est contredit tout à fait dans votre Moyen-Âge.
Oui, c'est contredit. Il n'empêche que je pense qu'il y a aussi une éducation genrée qui est très importante. Moi, je dis toujours, je résume toujours en disant, au Moyen-Âge, on éduque les garçons et on garde les filles. Voilà, c'est un peu les deux projets pédagogiques différents. Exducere en latin, hein, ça veut dire conduire en dehors d'eux. Donc apporter quelque chose de plus pour éduquer. Bon, ça, on peut dire que c'est surtout le garçon. Alors, évidemment, dans les milieux aristocratiques, il y a des filles très bien éduquées. Eliénor d'Aquitaine, par exemple, si on veut citer qu'elle.
Elle a été l'héroïne d'une de nos émissions avec le regretté historien Martin Aurel.
Martin Aurel, donc, qui avait fait un très, très bel ouvrage sur Eliénor d'Aquitaine.
Donc, effectivement, là, c'est une exception, et pour la plupart.
Oui, voilà. Et donc, la plupart du temps, donc, les filles, on les garde. C'est-à-dire qu'il faut qu'on conserve leur virginité jusqu'au mariage, évidemment. C'est ça, garder aussi, hein. C'est pour qu'elles se présentent sur le marché matrimonial, si on peut dire que ça comme ça, vierge, hein. Et donc, on les protège, on les garde. Alors que pour les garçons, on a véritablement beaucoup plus un souci éducatif. Mais il n'empêche que les taux d'alphabétisation peuvent se, dans les grandes villes de la fin du Moyen-Âge, on a des taux d'alphabétisation qui concernent les filles, qui sont relativement importantes aussi.
Hein. En vive opposition entre les campagnes et les
oui,
cités.
Oui, très nettement. Là, pour le coup, très nettement, je pense que les écoles, les villes, évidemment, sont largement avantagées par rapport à l'alphabétisation en particulier. On sait qu'il y a des maîtres et des maîtresses d'école à Paris, à Valenciennes. On a aussi fait des études sur cette ville-là. Enfin, et puis Florence, évidemment, qui est sans doute la plus connue.
Sur cet apprentissage, effectivement, très, très varié suivant les sexes, suivant les milieux sociaux, écoutez donc cet extrait du De Veritate Mundi, duc de Saint-Victor, XIIe siècle, qui est suivi d'un extrait du Régime du corps d'Aldebrandin de Sienne, du XIIIe siècle, encore une lecture de Jean-Pierre Leroux dans Les Lundis de l'Histoire.
Je vois une école d'élèves. Grand est leur nombre. J'en découvre qui sont d'âges divers, des enfants, des adolescents, des hommes jeunes, des vieux. Leurs études aussi sont diverses. Les uns apprennent à tourner leur langue encore inexperte pour prononcer de nouvelles lettres et émettre des sons qui leur sont insolites. D'autres s'évertuent à apprendre les flexions des mots, leur composition, leur dérivation, d'abord en écoutant, ensuite en conférant entre eux, enfin en les répétant pour les graver dans leur mémoire. D'autres dessinent sur des parchemins avec un calame conduit d'une main sûre des figures aux formes variées et aux couleurs vives. D'autres, animés d'un zèle plus vif et plus ardent, s'exercent ensemble à des discussions sur de grands sujets, semble-t-il, et ils cherchent à s'embarrasser les uns les autres en recourant à des artifices de langage et à des énigmes. J'en vois aussi quelques-uns qui calculent. Vous devez savoir que dès que l'enfant aura 7 ans, vous devez vous efforcer qu'il acquiert de bonnes habitudes et qu'il ne lui arrive rien qui le mette trop en courroux ni qui le fasse trop veiller, et que ce qu'il demande lui soit accordé. Et l'on doit faire ainsi pour que sa nature soit bien complexionnée et emplie de bonnes habitudes, car c'est l'âge où l'enfant retient le mieux et apprend bonnes et mauvaises habitudes. Et sachez que les bonnes habitudes sont garantes de la santé du corps et de l'âme. À cet âge, qui le veut, fait bien de l'envoyer à l'école et le confier à un maître qui sache l'enseigner sans le battre.
La forme mise de côté, ce texte pourrait être assez contemporain, Didier Lett.
Oui, je pense qu'effectivement c'est très très bien parce que ça prouve véritablement, je trouve, quand on écoute ces textes, hein, que la précision, je trouve, des termes, hein, pour qui montrent le souci éducatif de ces gens-là, hein, de ces médiévaux, me paraît tout à fait essentiel et balayer une fois pour toutes, j'espère, hein, l'absence de padéa des anciens, comme disait Philippe Ariès, c'est-à-dire ces gens-là ont effectivement un souci éducatif extrêmement fort. Et puis ce que je trouve très intéressant dans le texte d'Aldebrandin de Sienne, c'est quand même l'aspect progressif, hein, de très 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 progressif de l'apprentissage. avec ses âges de l'enfance, et notamment, lui, évidemment, il insiste beaucoup sur l'entrée dans la puericia, c'est-à-dire à partir de l'âge de 7 ans.
Entre infantia et puericia, voilà, ce sont deux étapes essentielles.
Voilà, hein, et évidemment, la césure, c'est 7 ans, hein, c'est l'aetas discretionis, l'âge de raison. Et je pense que pour nous, ça reste encore quelque chose, mais pour les médiévaux, c'était quelque chose de très, très fort. Hein. L'éducation commençait bien avant. On sait très bien qu'il y a les enfants qui rentrent à 4 ans à l'école, 4-5 ans, mais à l'époque médiévale. Mais 7 ans, ça, c'est quand même quelque chose de. Une césure symbolique, mais aussi dans la pratique extrêmement importante.
On néglige pas à l'époque l'enseignement intrafamilial, éventuellement des aînés par rapport aux plus jeunes, le fameux Jean Gerson, dit Charlier, je dis Gerson, qui est le frère aîné d'une fratrie importante et qui fait tomber, en quelque sorte, en ruissellement, sa compétence sur ses frères et sœurs.
Oui. Alors, Jean Gerson, c'est un bel exemple. Hein. Donc, d'abord, d'ascension sociale, hein, de transfuge de classe, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire, Jean Gerson, il est issu d'un milieu paysan champenois, et puis il devient le chancelier de l'université, hein, carrément. Donc, c'est un bel exemple. Et puis, il est issu, évidemment, d'une fratrie de 12 enfants, dont il est l'aîné. Et il écrit, alors c'est intéressant, parce qu'il écrit à la fois en latin à ses frères, qui sont la plupart du temps placé au monastère. Et puis, il écrit en langue vulgaire, donc en françois, en français, à ses sœurs. Donc ça, c'est intéressant aussi en termes de genre, de voir qu'il adopte une langue différente en fonction de la personne à qui il s'adresse. Et évidemment, c'est un très, très bel exemple, hein, de frère aîné qui a souci de ses enfants. Parce que je pense qu'il faut, dans ces fratries qui peuvent, je répète, être larges parfois, l'aîné, et en particulier la sœur aînée, joue un rôle vraiment de mère de substitution très, très souvent. On a pu le montrer à partir des récits de miracles, par exemple.
Il y a des relations adelphiques entre frères très, très positives.
Oui, très, très, très nettement. Hein. Je pense que la relation la plus positive entre les frères et sœurs, c'est entre un frère et une sœur. Hein, ça, c'est quelque chose qui est mis en scène assez souvent. L'amour adelphique. Bah, l'amour adelphique, on peut dire que c'est presque le symbole de l'amour chrétien. Hein. C'est-à-dire que le Christ se présente comme le frère de tous les chrétiens. Et donc, le lien adelphique, c'est un lien hyper valorisé à l'époque médiévale. Hein, ça, j'ai pu le montrer dans les travaux sur les frères et sœurs.
Le domaine des jeux est également intéressant. Vous attirez notre attention sur cette activité ludique. Je vois que Froissart, le fameux chroniqueur du XIVe siècle, écrit dans L'Espinette amoureuse, en se souvenant du temps de son enfance, tous les jeux qui ont existé, Colin Maillard, cache-cache, les gendarmes et les voleurs, à la queue-leu-leu, pile ou face, le cerf-volant, les jeux de sable ou de balle, des sifflets, cheval-bâton ou la toupie, tout ça est assez contemporain, moderne.
Oui,
permanent.
Puis bon, c'est vrai qu'on a quand même une liste là avec les spinettes de Froissart de jeux. Alors on pense au tableau de Bruegel aussi, hein, des jeux d'enfants, un peu plus tardifs évidemment, un siècle plus tard, enfin deux siècles plus tard.
Ça chasse l'idée d'une morosité ambiante qui envelopperait les malheureux enfants du Moyen Âge.
Il y a des jeux et des jouets. On en a retrouvé quelques-uns. Les archéologues nous aident évidemment dans les à retrouver quelques jouets. Mais la plupart des jouets, on peut évidemment les imaginer en bois, donc on les conserve assez mal évidemment, hein, plusieurs siècles après. Et puis surtout des objets du quotidien, hein, qui servent de jeu. Hein. Voilà, il n'y a pas une industrie. Enfin, il commence à y avoir des jouets, enfin des artisans spécialisés en jouets. On en a des exemples en Allemagne au XVe siècle.
Hein, certains prêtres un peu étroits condamnent les jeux comme éventuellement. Expression de l'enfer.
Oui, voilà. Alors le jeu, évidemment, surtout les jeux de hasard. Alors là, c'est quand même là, les statuts communaux italiens ont toujours une rubrique sur l'interdiction des jeux de hasard.
Et ça dure très longtemps. La réforme a beaucoup insisté là-dessus, les protestants en particulier.
Je pense que c'est dans le collimateur de l'Église, quelle que soit la confession, de lutter contre l'activité ludique, mais quand même avec peut-être une plus grande tolérance sur l'activité ludique enfantine que l'activité ludique adulte.
Didier Lattes, nous avons réintroduit du bonheur dans la vie de ses enfants, mais on ne peut pas faire l'économie de l'évocation de tous les malheurs qui l'ont frappé aussi. Et je voudrais que, pour finir, nous en venions à cela, aux maladies, aux accidents, aux handicaps, à la maltraitance, aux abandons.
Oui, je crois que c'est aussi important, voilà, dans cette nouvelle synthèse, de montrer aussi les aspects un peu pas négatifs, mais enfin la condition, on va dire, enfantine de l'époque médiévale. Il faudrait pas non plus forcer le trait et montrer qu'une enfance heureuse, hein, cette enfance, on va pas le répéter, mais elle est heureuse, en tout cas, elle est faite d'affection, de soucis éducatifs. Mais évidemment, on est dans une société où on l'a déjà dit, la mortalité infantile est très forte. Un moindre rhume, aujourd'hui, un rhume, voilà, une dysenterie pour un nouveau-né. Bon, a priori, on sait soigner. À l'époque médiévale, on en meurt.
Hein. Vous faites ainsi un sort aux accidents domestiques dans les fermes. Coup de sabot d'un cheval ou un cochon qui vous renverse.
Les animaux, on ne se rend pas compte combien...
Les noyades aussi.
Les noyades. Alors, ça pose le problème, évidemment, de la surveillance, hein, de la surveillance des enfants. Alors, on a beaucoup dans les récits de miracles de nourrices en particulier, mais aussi de mères qui laissent l'enfant, le tout petit enfant, dans un bain sous la surveillance de l'aîné qui est guère plus âgé, qui a 2-3 ans de plus. Et évidemment, il y a une mort. Heureusement, dans les récits de miracles, ça se termine toujours bien. On invoque la Vierge, on invoque un saint et l'enfant ressuscite ou est immédiatement guéri. Mais les noyades, c'est une des causes. Hein. La suffocation aussi, la noyade, les brûlures.
Certains sont étouffés dans le lit de leurs parents lorsqu'ils dorment.
Oui, alors ils sont. Alors bon, évidemment, c'est peut-être parfois les moralistes ont dit, bah c'est un infanticide déguisé. Hein, voilà. Et donc on a par exemple cette recommandation de certains moralistes qui disent, si la mère est obligée de coucher avec son enfant parce qu'elle doit le nourrir à la demande, hein, c'est plutôt on nourrit à la demande au Moyen Âge en général pour l'allaitement, eh bien qu'elle mette une petite caisse en bois, hein, avec un cadre en bois, qu'on mette l'enfant dedans.
Une sorte de couffin.
Voilà, pour éviter que la mère, en se retournant, bah, écrase l'enfant. Et donc les moralistes sont vigilants parce qu'ils se disent, bah oui, ils nous disent, enfin voilà, on avoue que l'enfant est mort par accident, mais en fait c'est sans doute un infanticide. Bon, ça on ne saura jamais, hélas.
Comment traite-t-on les enfants handicapés?
À la fois, on les traite, est-ce qu'on les traite mieux qu'aujourd'hui? J'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'il y a à la fois beaucoup de compassion parce qu'on est dans une société chrétienne, et le handicap, évidemment, c'est quand même quelque chose qu'il faut. Voilà, il y a une grande solidarité. Mais d'un autre côté, avoir un enfant handicapé, c'est quand même la preuve que l'enfant n'a pas été conçu dans des conditions, on va dire, chrétiennes. Hein. Et donc, il y a quand même une accusation, a priori. Hein. On sait très bien que, bon, avoir un enfant lépreux, par exemple, hein, ça veut dire que les parents ont eu une relation charnelle dans de mauvaises conditions. Hein. Ils n'ont pas suivi les bons préceptes de l'Église. Donc, un enfant handicapé, c'est à la fois une culpabilité. Hein, qu'est-ce que j'ai commis comme crime, finalement, pour avoir un enfant handicapé, mais avec quand même une grande solidarité de l'ensemble de la société à l'égard des enfants handicapés.
Et puis, la maltraitance à l'école, c'est un sujet qui est actuel pour nous, n'est pas absente, évidemment, dans cette société du Moyen-Âge. Écoutez donc cet extrait de la vie de saint Anselme d'Edmer, au tournant du XIe et du XIIe siècle, qui est lu ici, encore par Jean-Pierre Leroux, dans les Lundis de l'Histoire.
Un jour, un abbé lui parlait des moines de son monastère et l'entretenait des enfants élevés dans le cloître, ajoutant à ce propos « Que puis-je faire d'eux, je te le demande? Ils sont pervertis et incorrigibles. Jour et nuit, nous ne cessons de les battre à coups de fouet, et sans cesse ils empirent. » Alors Anselme de s'étonner « Vous ne cessez de les battre? Et quand ils deviennent grands, comment sont-ils? Tout à fait hébétés. » Alors Anselme « C'est un bien mauvais signe que de dépenser de la nourriture qui transforme des hommes en bêtes. « Que pouvons-nous faire ? » dit l'abbé. « Nous les forçons à avancer par tous les moyens et ils n'avancent pas. »« Vous les forcez ? » Dis-moi, seigneur abbé, si tu plantes un arbre dans ton jardin et si par la suite tu l'enfermes de telle sorte que ses rameaux ne peuvent s'étendre, l'ayant ainsi empêché de croître pendant des années, je te demande de me dire comment se présentera cet arbre. Et à qui la faute sinon à toi, qui l'a contraint avec excès? Vous faites de même avec vos enfants. Les parents qui les ont offerts au monastère les ont plantés dans le champ de l'église pour qu'ils croissent, et vous les contraignez par la terreur, les menaces et les coups de fouet sans leur permettre aucune liberté. C'est pourquoi, par suite d'un excès d'autorité qui les étouffe, les enfants entretiennent en eux des méchancetés et des sentiments enchevêtrés comme des épines. Ils les aiment, ils s'en nourrissent, et s'en nourrissant, ils en tirent force, si bien que, l'esprit obstiné, ils se dérobent à tout ce qui pourrait les aider et corriger leurs fautes. C'est parce qu'ils ne sentent en vous aucun amour, aucune pitié, aucune bienveillance ou douceur, parce qu'ils n'espèrent pas voir venir de vous quelque chose de bon, mais qu'ils croient que tout ce que vous faites est provoqué par la haine et la colère. Et il arrive malheureusement que lorsqu'ils grandissent, la haine et la défiance grandissent en eux et qu'ils soient à jamais tournés vers les vices. Par Dieu, je voudrais que vous me disiez pourquoi vous montrez contre des enfants tant d'hostilité. Si vous désirez que votre enfant soit bien élevé,
Il faut donc l'aide de votre douceur et de votre piété paternelle.
On pourrait peut-être, Didier Lette, réciter ce texte à un certain nombre de nos contemporains.
Oui, sans doute. Je pense que dans les établissements du secondaire, ça pourrait être un beau texte. Anselme fait la morale, évidemment, à cet abbé absolument horrible, qui n'a pas compris. Alors, on est au XIIe siècle, dans des monastères, quand même. Donc, je pense qu'il faut le rappeler. C'est peut-être pas la situation au XVe siècle. On a 3-4 siècles de différence. Ou dans les écoles, on sera peut-être un peu moins... On aura la badine un peu moins facile, peut-être. Mais dans les monastères, je pense que, voilà, comme le montre ce texte, on devait frapper les enfants relativement souvent. Mais ce que je trouve ce texte très beau, parce que on sent pratiquement du Erasme, là, en disant aime les enfants à qui tu enseignes, et puis ils t'aimeront. Enfin, voilà, l'éducation passe aussi, finalement, par une affection entre le maître et les élèves, et c'est un très très beau texte.
Dans un monde où la violence est plus présente qu'aujourd'hui dans la vie quotidienne, après tout, on leur montre constamment des représentations du Christ avec des paumes trouées et du sang de partout. Il faut y songer à ça aussi.
Oui, je crois que c'était important de commencer un petit peu ce chapitre sur les violences en disant mais qu'est-ce que les enfants du Moyen-Âge avaient sous les yeux ? Et c'est vrai quand même que quand on rentre dans une église, on voit d'abord et avant tout un Christ, et puis à partir du XIIIe siècle, un Christ sanguinolent. On voit des martyrs qui se font parfois arracher chez la peau. On voit des scènes quand même atroces.
Et sadisme.
Oui, quand même, les enfants voient ça. Donc, on parle aujourd'hui des enfants devant la télé, pas avant 12 ans, etc., parce que c'est trop violent.
On parle même des réseaux sociaux, mon cher collègue.
Eh oui, je sais bien. En fait, je pense que il faut peut-être essayer de se remettre dans le contexte et de voir que ces enfants avaient sous les yeux des images extrêmement violentes. Ils n'étaient absolument pas protégés, comme ils peuvent l'être, à mon avis, aujourd'hui.
Pas protégé non plus éventuellement contre les violences sexuelles. Il ne peut pas faire l'économie de ce chapitre.
Non, je pense que ça aussi c'était important d'aller jusqu'à là, même si c'est très douloureux de parler de ça. J'ai passé donc 8 ans dans les archives de Bologne à écrire un livre sur la pédocriminalité.
Pourquoi Bologne ?
Pourquoi Bologne ? Parce que c'est un paradis pour les historiens. Les archives sont assez extraordinaires. On a tout conservé à Bologne pratiquement.
C'est une des universités les plus anciennes de l'Europe.
Voilà. Et donc avec les archives, absolument géniales. Et moi j'ai passé donc j'ai dépouillé les archives entre 1343 et 1474 pour trouver 150 cas de pédocriminalité.
Les archives de quoi ? Quelles sont ces archives ?
Ce sont les archives, ce qu'on appelle les libri maleficiorum, c'est-à-dire les registres de justice, qui sont les registres civils, les archives de l'État, l'archivio stato de l'État, donc, et qui sont extrêmement bien conservées.
Qu'est-ce que vous avez appris des dialectes dans ces archives ?
Ça m'a conforté dans l'idée que l'enfance était extrêmement valorisée à l'époque médiévale. Ça peut paraître contradictoire, mais parce que sur ces 150 cas, ce qui est très peu, ça fait un cas par an, ce qui, évidemment, sur une ville de 40 000 habitants comme Bologne, n'est pas là pour rendre compte d'une réalité, parce que les cas qui arrivent aux oreilles du podestat sont les cas les plus extrêmes, évidemment, et ceux qui sont dénoncés. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que finalement, les sentences les plus terribles sont pour les pédocriminels, pour les coupables, qui ont violé un enfant. Surtout un garçon, d'ailleurs, plus qu'une fille, évidemment. Parce que
ça s'ajoute, la sodomie s'ajoute.
Tout à fait. Non seulement c'est un viol, mais en plus c'est un crime contre nature.
Pour les filles, à la rigueur, on peut réparer en épousant.
Tout à fait. Il y a ce fameux mariage réparateur qui est absolument horrible, qui est la possibilité pour le violeur d'épouser sa victime. Si les deux parties, on va dire, si la famille, pour sauver l'honneur, d'une certaine manière, accepte que le violeur épouse la victime...
Pour les garçons, l'échafaud ou le bûcher est à peu près assuré.
Oui, la peine capitale, qui est une peine qui n'est pas si fréquente que ça à l'époque médiévale, mais en tout cas, elle est la plupart du temps prononcée lorsqu'il s'agit d'un viol d'un garçon, parce que c'est à la fois un crime qui est doublé, on va dire, d'un acte contre nature. Et ça, c'est quand même extrêmement important à l'époque médiévale. Pour l'époque médiévale, donc on a ces cas, mais il faut penser évidemment que tous les procès sur lesquels j'ai travaillé montrent qu'il y a toujours moyen de s'arranger un peu avant la fin, c'est-à-dire qu'on peut toujours casser un procès en cours lorsque les deux familles trouvent des accords entre eux.
Vos enfants au Moyen-Âge, Didier Lette, subissent tous les drames de l'époque. Je pense à la famine, je pense à la grande peste, mais je voudrais que nous terminions notre conversation sur un cas fameux, mais qui demeure assez stupéfiant rétrospectivement, je veux dire la croisade des enfants, qui remonte à 1212, où on jette des enfants en direction de la Terre Sainte, et qui demeure, après tous ces siècles, assez sidérante. Écoutez donc cet extrait de la chronique d'Albéric de Troisfontaines, aux alentours de 1232-1241, qui est lu ici par Olivier Martineau dans le cours de l'histoire de notre cher Xavier Mauduit, sur France Culture, le 22 décembre 2021. «
Cette année 1212, il y eut une expédition assez miraculeuse d'enfants venus de partout. Lorsqu'ils furent environ 30 000, ils allèrent à Marseille, voulant traverser la mer pour lutter contre les Sarrasins. Les Ribauds et d'autres hommes mauvais qui s'étaient joints à eux souillèrent toute l'armée, de telle sorte que pendant que certains périssaient en mer et que d'autres étaient vendus, seuls quelques-uns d'une telle multitude rentrèrent chez eux. On dit que ceux qui trahirent ces enfants furent Hugues Ferréus et Guillaume Porcus, marchands de Marseille. Comme ils étaient capitaines de navires, ils leur promirent de les transporter gratuitement outre-mer pour la cause de Dieu. Ils remplirent 7 grands navires avec eux, et après 2 jours de voyage, une tempête se leva. 2 navires furent perdus, et tous les enfants à bord noyés. Les traîtres, pendant ce temps, conduisirent les 5 autres navires à Bougie et Alexandrie, et là, vendirent tous ces enfants.
La vente des enfants en moins, et là encore, il y a un écho aujourd'hui, quand on songe tous les passeurs et toutes les noyades en Méditerranée, mais ce n'est pas pour aller en Terre Sainte. Comment cet événement a pu survenir, ces enfants jetés sur les routes maritimes?
Oui, alors on est dans un moment important où la croisade, hein, qui a commencé, vous le savez, à la fin du XIe siècle, hein, à partir de 1095, il y a eu 8 croisades. Les croisades sont en train un peu de s'essouffler, on va dire. Et donc, dans les sources, en tout cas, on voit plein de mouvements comme ça, de croisades assez extraordinaires, hein, spontanées. Alors bon,
spontanées des milliers d'enfants.
Des milliers d'enfants,
mais pas partis tout seuls.
Oui, mais je pense qu'il faut raison garder, on va dire. C'est les chroniqueurs qui nous disent des milliers d'enfants.
Déjà des centaines.
Déjà des centaines, c'est beaucoup. Et puis, il y a le terme de pouérie qui a été beaucoup discuté, parce que le terme de pouérie, ça veut dire les enfants, évidemment, et les enfants de quoi? Peut-être les enfants de Dieu, hein, peut-être pas forcément que des enfants, voilà. Hein, donc, je pense qu'il faut peut-être nuancer, hein, c'est tous ces enfants qui ont été sur les chemins. Alors, il y a eu 2 croisades, hein, sans doute l'une partie de Chartres et l'autre plutôt de la Germanie, et qui se sont réunis assez vite et qui sont allés jusqu'en Terre Sainte. À l'origine, il y a toujours un enfant qui, d'un seul coup, comme un prophète, a une parole divine, et puis tout le monde le suit. Bon, alors, toujours, attention, hein, c'est pas la réalité, hein, ce sont des textes, et souvent les textes sont plus tardifs, hein, ils sont écrits 30, 40 ans après.
Il y a eu quand même une croisade des enfants.
Oui, il y a eu des croisades des enfants, ça a existé, on sait très bien qu'il y a des enfants qui ont été, qui sont allés sur les routes et les chemins jusqu'en Terre Sainte, et qui se sont fait visiblement massacrer, etc. Enfin voilà, tous les chroniqueurs le disent. Mais peut-être qu'il n'y avait pas une ampleur aussi importante que les chroniqueurs le signalent, voilà. Mais bon, ça rend compte en tout cas d'un mouvement, la force de la croyance et la force évidemment des croisades encore en 1212.
Il est peut-être un peu dommage, Didier Hilat, que nous terminions sur cet aspect le plus sombre de notre évocation des enfants au Moyen-Âge, mais comme tous nos auditeurs et toutes nos auditrices auront écouté l'entièreté de notre conversation, je ne doute pas qu'ils sauront rétablir l'équilibre. Merci beaucoup d'être venu à ce micro.
Merci à vous.
Votre ouvrage sur lequel nous avons fondé notre entretien s'intitule « Enfants au Moyen-Âge, 12e-15e siècle », paru chez Talendier récemment, tout récemment. Et puis, vous avez une bibliographie abondante que l'on retrouvera largement sur notre site, mais vous avez en particulier rédigé un livre important, et on retrouve votre séjour à Bologne que vous évoquez tout à l'heure, « Viol d'enfants au Moyen-Âge, genre et pédocriminalité à Bologne, 14e-15e siècle », paru aux presses universitaires de France il y a 4 ans. Vous avez également donné, nous parlions des frères et sœurs, des relations adelphiques, vous avez donné un livre qui s'appelait « Frères et sœurs, histoire d'un lien », paru chez Payot en 2009. Et vous pourrez trouver, bien sûr, d'autres ouvrages qui compléteront cette bibliographie sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez réécouter et podcaster de diverses façons cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Julien Calvas à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Clary Monac.